Konite konemish, enteshenekeshen perle de rosée que wishpet. Bonjour, mon nom est Diane, puis je suis une alcoolique. On parle d'une nouvelle liberté. J'ai eu le privilège, 15 ans passés, d'être adoptée par une nation inoue, puis c'est le nom qu'ils m'ont donné. Fait que par respect pour cette nation-là, j'aime à m'identifier aussi dans leur langue. Une nouvelle liberté. C'est sûr, quand j'ai commencé dans la vie, j'ai eu des bons parents. C'est sûrement pas eux autres qui m'ont apporté à boire. C'était aisé à la maison, c'était aisé à l'école. Donc, je suis une personne... ça m'a permis de développer une personnalité fonceuse, marginale, vous le voyez. Ma mère m'a donné des responsabilités très jeune, donc ça m'a permis d'être débrouillarde très jeune. Donc, à cette époque-là, je peux dire que la liberté, je l'avais. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Puis ces enfants-là sont devenus la mission de ma vie. C'est à partir de ce moment-là, je dirais que, sans le vouloir ou sans le savoir, j'ai commencé à perdre une certaine liberté. Parce que comme je m'investissais à 100% pour ces enfants-là, j'ai commencé à délaisser Diane en tant que Diane. J'étais la mère de Dominique ou la mère de Michel. C'était, comme je vous dis, la mission de ma vie. Les gens qui avaient besoin d'aide autour de moi s'accrochaient à moi, donc je suis devenue la Wonder Woman de ceux qui avaient besoin d'aide. Mais tout ça en oubliant qui était Diane. Fait que de plus en plus, cette liberté-là que je m'étais consciemment ou non enlevée a fait que je suis devenue prisonnière d'un certain moule. Quand mes enfants sont devenus autonomes, ce que tout parent souhaite, qui n'ont plus besoin de moi 24 heures sur 24, c'est là que le drame est apparu, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me reste comme justement comme liberté pour moi-même en tant qu'individu? C'est ça qui m'a fait consommer. C'était peut-être pas une raison suffisante. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était peut-être pas un drame si atroce que ça, mais c'est le mouvement qui m'a enseigné à dédramatiser, puis à me dire que finalement, le drame était pas si énorme. Mais à l'époque, c'est ce que je vivais, c'est ce que j'étais. Donc, c'était un drame important, un trou sans fond. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à consommer. Sauf que Wonder Woman pouvait pas demander de l'aide, donc je me suis isolée. J'ai consommé chez nous. Puis à un moment donné, c'était devenu tellement le bordel dans ma vie qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait. Je pensais au suicide. Pourtant, je voulais être là pour mes enfants, donc c'était un peu incohérent. En tout cas, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Fait que le membre fondateur de Bécomo s'aperçoit que ça va plus du tout. Il me dit, écoute, t'es alcoolique anonyme, a été bon pour 140 quelques organismes. Je sais pas vraiment ce que tu vis parce que tu m'en parles pas toujours, mais viens voir, peut-être tu vas trouver quelque chose là qui fait ton affaire. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai vraiment commencé à respirer quand je suis rentrée dans une salle. Sauf que je pensais pas d'être orgueilleuse, mais je dois admettre que je l'étais sûrement puisque même si je suis rentrée dans une salle, j'ai quand même gardé un territoire autour de moi. J'ai gardé une barrière. Je me suis gardée en prison, finalement, encore pour un petit bout. Mais j'avais pas de difficulté à admettre que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Ça, c'était très clair. Mais c'était pas dans ma tête évident que c'était juste l'alcool qui était en cause. Fait que j'ai commencé à faire du meeting, mais là, c'était pas logique dans ma tête de faire du meeting puis de consommer. Donc, j'ai arrêté de consommer parce que je faisais du meeting. J'ai pris la littérature, je me suis préparé, j'ai vraiment fait tout ce qu'il disait dans le mouvement, mais je me suis pas identifiée. Comme je vous dis, j'ai laissé quand même encore la barrière autour. Pendant près de 2 ans et demi, un matin, un soir plutôt, j'étais avec mon parrain, puis j'ose avec, je lui dis, penses-tu que je suis alcoolique, là, tu sais? Il dit, écoute, la journée que tu vas te lever, prendre un jeton du nouveau, c'est moi qui vais te le donner. Parce que c'est ça, je le rencontrais régulièrement, puis j'y disais, ben gars, c'est drôle, hein, moins je consomme, mieux ça va, là, tu sais, j'ai arrêté de consommer, le temps passe, les années ont passé, puis il me semble ça va mieux, il me semble je respire mieux, il me semble je commence à retrouver plus qui est Diane, puis où elle veut aller, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut être. Fait que c'est là qu'il m'avait répondu, ben gars. Fait que au mois de mars, je prends un jeton du nouveau, au mois de juin, je prends un gâteau de 3 ans, parce que ça faisait 3 ans que j'avais pas consommé. Quand je vous dis que je suis marginal, ça va jusque-là. Alors, aux districts qui ont besoin d'un assistant RDR depuis le mois de janvier qui en cherche un, j'ai un paquet de bons vieux membres avec plein d'années de sobriété qui me disent « Écoute, on te prête des années de sobriété, ils ont besoin de quelqu'un, envoie go, t'es capable. » Hey, t'es capable. Tu te tapes dans le dos. Mais c'est grâce à ce service-là que j'ai appris à me redéfinir, que j'ai appris à redécouvrir qui j'étais. Puis c'est là que la nouvelle liberté est embarquée finalement, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires partout. J'ai eu le privilège de servir ma région en tant que représentante des communautés éloignées. J'ai aidé des groupes autochtones sur la Basse-Côte-Nord à partir. Puis encore dernièrement, je reçois un téléphone. « Te rappelles-tu, telle année, tu nous avais aidé, mais là, le groupe, il a fait du « oui, non, oui, non ». Ben, on aurait besoin que tu nous donnes encore un coup de pouce. » C'est ça, la liberté d'alcoolique anonyme. D'être capable d'être là pour soi, d'abord, parce que si je suis pas bonne pour moi, je suis pas bonne pour les autres. Mais si j'apprends à me redécouvrir, à fixer mes racines, puis à être attentive à ce que les autres m'apportent ou me demandent autour de moi, je suis libre d'aller où je veux puis de faire ce que je veux. J'ai eu le privilège d'être élue déléguée de ma région l'automne passé. Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans passé, j'aurais dit « oui, crée-moi sincère que je vais être déléguée un jour, là, j'ai de la misère à gérer mes propres affaires ». Mais oui, à 24 heures à la fois avec Alcoolique Anonyme, avec les outils qu'on nous donne, ça se fait. Je devais pas être ici. Mon employeur me disait qu'il pouvait pas me laisser. Je travaille au niveau d'une commission scolaire. C'est la fin de l'année scolaire, début de l'autre. Non, non, tu peux pas partir. On a besoin que tu sois là. Les planètes s'alignent. Je reçois une proposition il y a 3 semaines. T'embarques-tu avec nous autres? Je vais voir ma directrice. J'ai dit, écoute, je suis prêt à faire de l'over sur mon bras. Faut que j'aille là. C'est arrivé. Quand on reste ouvert à tout ce qui se passe, à tout ce qu'Alcoolique Anonyme peut nous apporter, il n'y en a plus de frontières. J'ai rencontré, comme je vous dis, des gens de partout. J'ai des amis jusqu'en Californie qui m'invitent. Bon, j'ai peut-être pas les finances pour y aller, mais quand même, là, tu sais, l'invitation est là. J'ai retrouvé les gens avec qui j'étais à la conférence cette année. Là, tu sais, ils me rencontrent. « Allô, allô, allô. » Écoute, j'ai fait, je pense, plus de réunions de corridor que j'ai faites dans une salle. Mais extraordinaire. Si j'avais continué à consommer, je n'aurais pas vu ce que j'ai vu hier soir, la cérémonie des drapeaux qui m'a transporté. Alcoolique Anonyme est dans combien de pays? Nous autres, on a la liberté de choisir à quel meeting on va aller. En Iran, ils n'ont pas ce choix-là. L'Iran, c'est un pays musulman, ils n'ont pas le droit de boire en théorie, eux autres. Sauf qu'ils ont 132 groupes d'alcooliques anonymes, ça doit être parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais l'État ne les reconnaît pas. Donc, pour être capable de se réunir, ils font des meetings dans des autos ou dans des tentes plantées dans le désert pour être sûr de ne pas se faire voir comme... Parce que si tu te réunis comme alcoolique anonyme, c'est parce que tu bois. Si tu bois, on te met dedans. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent se rétablir. Fait qu'on est chanceux, nous autres ici, d'avoir cette opportunité-là de faire des meetings quand on veut, où on veut, d'avoir la liberté de se rétablir sans avoir peur que l'État vienne nous taper dans le dos. Mais malgré tout ça, eux autres aussi ont choisi la liberté de se rétablir, même si l'État ne les reconnaît pas. C'est toutes des dividendes d'alcoolique anonyme. Un matin, ma fille de 19 ans m'appelle. Elle dit, « Maman, ça ne va plus du tout. » Elle était à Québec, je vais la chercher, je la ramène chez nous. Puis je fais comme le vieux membre avait fait avec moi, j'ai dit... Tu me parles pas vraiment de ce que tu vis, mais te tends-tu qu'on aille faire une réunion? Peut-être que tu vas trouver quelque chose qui fait ton affaire là. Effectivement, elle a rencontré un jeune homme avec qui elle a parlé pendant la pause, de quoi je le sais pas, puis j'y ai jamais demandé, sauf qu'elle revenait à la maison avec le sourire. Après quelques jours, elle me dit, je suis prêt à retourner à Québec, mais fais-moi faire des meetings. Mais elle me dit pas qu'elle a un problème. Fait qu'on fait quelques meetings à Québec. Moi, je suis supposé redescendre le dimanche soir, elle dit, attends encore une journée. Fouille dans mon bottin, trouve une réunion pour un nouveau, ben je dis, lundi soir, c'est là qu'on va. Rendu au jeton du nouveau, elle se lève, puis elle va le chercher. Elle dit, j'ai vu tomber ma mère, je l'ai vu se relever, maintenant c'est moi qui ai besoin d'aide. C'est comme, ah! J'ai pas besoin de vous dire, j'ai figé là. Elle faisait 1 heure d'autobus pour aller à sa réunion. C'est les membres qui la ramenaient après. Après quelques semaines, je rouvre mon bottin, Là, je la rappelle, j'ai dit, fille, il y en a un le dimanche matin au cégep que tu fréquentes. Mais 10 heures le matin, c'est de bonne heure pour toi. Elle me dit, maman, quand on veut des résultats, on fait les efforts. Encore une fois, c'est extraordinaire parce que, oui, Alcoolique Anonyme me donnait une liberté, mais il me ramène une autre liberté à travers ma fille. Elle avait 19 ans à l'époque, elle en a 33 aujourd'hui. Depuis 7 mois, elle a fait de moi une grand-mère. Une autre liberté. C'était pas prévu dans son cheminement de vie. C'est arrivé par accident, mais pas vraiment, on va dire, les planètes se sont alignées. Puis elle me dit, « Maman, si j'avais continué de consommer, je serais pas maman aujourd'hui. Tu serais pas non plus grand-mère. » Elle dit, « Je serais passée à côté de quelque chose. » Là, je comprends quand tu me disais qu'avoir des enfants, c'est le plus beau cadeau qu'une mère peut avoir. Elle dit, « Je te comprends. » Mais elle dit, « Tout ça, maman, on le doit à Alcoolique Anonyme. » Fait que de par les fonctions, c'est pour ça que je m'accroche au service, parce que Alcoolique Anonyme était là pour moi quand je suis arrivée. Les vieux membres étaient là pour me porter à bout de bras, pour me prêter des années de sobriété pour être capable de fonctionner, pour fonctionner librement. Puis je vais être là, puis pour assurer que cette structure-là soit là aussi pour ma petite-fille si elle en a besoin. J'y souhaite pas d'en avoir besoin, mais si elle en a besoin, je veux qu'Alcoolique Anonyme soit là pour elle. Et de cela, je suis responsable. Merci.
Merci beaucoup, Diane. Ouais, ben c'est ça, Diane va nous quitter, mais on va poursuivre notre réunion. Merci infiniment. Donc, notre deuxième conférencier s'appelle Yvon.
Bonjour, mon nom c'est Yvon V. Je suis né à Welland, Ontario. C'est pas loin de Niagara Falls. Et premièrement, mon groupe, c'est le groupe de Rose. Puis à matin, quand j'ai m'assis ici, j'avais deux roses sur chaque bord. So, c'était une bonne affaire que c'est ça me pensait à mon groupe à soir. So, je suis sobre depuis décembre le 14, 1981. Puis, c'est pas si longtemps que ça, ben pour moi, ma vie a bien changé depuis ce temps-là. Puis je vais essayer un peu de vous dire quoi qui est arrivé. Quand j'ai rentré dans AA, ma vie, moi, je pensais que j'étais normal. J'avais rien qu'une vie. Je buvais tous les jours. Depuis l'âge de 13, 14 ans, j'ai bu pas mal, deux, trois fois par semaine. Puis là, quand j'ai eu 16 ans, je buvais tous les jours. Il y avait pas, il y a pas trop de jours que j'ai pas bu. Puis avant, je pensais tellement, parce que, Wallen, il y a gros des hôtels. Ben l'hôtel, moi, je restais à deux maisons d'un hôtel. Puis mon père, il a dit, tous les lundis, il a dit, un auto, il arrive là, un limousine, là, avec toutes sortes de filles qui partaient, ils sortaient de char là. Puis mon père, il dit, les autres, ils dansent, puis ils ôtent leur linge. Ça, so, j'ai dit, quoi? Ça, so, j'avais un 10-11 ans. Ça, so, ça va. Quand je pense, j'avais 14 ans quand j'ai rentré à l'hôtel. C'était. Puis il y avait deux, trois hôtels que j'allais pas mal souvent. Puis une autre affaire, c'était les États-Unis. C'était bien 20 minutes de nous autres. Ça, so, là-bas, là où j'étais à 18, ben on allait là. Je pense, la première fois que j'étais là, j'avais 13 ans. Après ça, j'allais pas mal toutes les... Pour une excuse, c'était pas mal tous les jours. Quand depuis l'âge de 16 ans, je bois pas mal tous les jours. Le soir, là, des fois, là, je dis la même affaire, ben, t'es bien à 10h30, 11h, là, je vais dire, ben, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Mais quand je buvais, j'ai jamais dit ça une fois. Je buvais, puis je dormais, puis je me réveillais le lendemain, j'étais encore habillé, puis j'avais, t'as bien une bouteille de phare en dessous du lit, ou bien une coupe de bière en dessous du lit. Puis là, dans ce temps-là, j'ai commencé à aller à tous les clubs de Welland pour jouer au hockey, puis aux cartes, puis bowling, puis tout ça. J'ai tout fait ça pour une raison pour boire. Puis on avait un club à Welland, le Club Champlain, puis je jouais pas, moi, mais c'était moi qui étais en charge, en tout cas, que tu faisais blesser ou quelque chose. J'étais pour un course que quelqu'un se fait couper ou quelque chose. Puis j'étais sous quand c'était pour 2 jours, puis j'étais sous pour 2 jours quand j'étais au cours là. Dans ce temps-là, il y avait gros des choses qui arrivaient. Là, j'avais pas de liberté, je savais pas quoi faire, c'était juste la boisson. Là, j'ai commencé à faire toutes sortes d'affaires dans ma vie, des affaires commençaient à arriver. Je me réveillais le matin, puis j'avais des barreaux de fer en avant de moi, puis j'avais peur parce que je savais pas pourquoi j'étais là, puis dans ce temps-là, je conduisais pas un auto, ça. Je pensais pas que c'était pour un auto. Mais c'était toujours parce que j'avais de la misère à marcher quand je buvais. Des fois, je prenais un pas en avant, puis 3 pas pour revenir. Ça, j'arrivais jamais, je voulais y aller. Puis mais les polices, ils me ramassaient, puis ils mettaient en prison. Ça, le lendemain, il me restait à sortir, puis j'allais en cours, puis... Anyway, je pense que j'étais bien une trentaine, 30 à 50 fois en prison, comme ça. Puis tout, je pense qu'il ne bourrait même pas la porte, puis je sortais pas, je restais... là, j'ai commencé avec j'avais d'ouvrages, mais c'était tout d'ouvrages que c'était rien que pour l'argent pour boire. Je restais à la maison, on avait 6 enfants, ben j'étais le deuxième plus vieux, puis je travaillais, ben j'étais rien que pour boire, à moquer du temps, je payais même pas d'argent à mes parents, c'était tout pour d'argent pour boire, puis j'allais aux États-Unis pas mal, puis dans ce temps-là, j'allais à Montréal toutes les années pour des games de hockey là c'était dans le mois de mars. So, on allait, puis je buvais jeudi soir, on commençait après l'ouvrage, puis on buvait toute la nuit, puis après ça le lendemain matin j'avais mon sac avec moi en bac dans le train pour aller à Montréal, puis je pense pas qu'on a dormi trop dans fin de semaine qu'on allait là, mais on allait toujours à la joute de hockey, par exemple. Puis, là, les affaires ont commencé à arriver avec les finances. Une fois, je me rappelle, j'avais fini à midi un vendredi, puis on se faisait... notre paye, c'était toutes les 2 semaines. Puis sa semaine-là, c'était la semaine qu'on n'avait pas d'argent. Je restais à la maison, j'étais à l'hôtel en ville, puis à l'autre bord de la rue, il y avait des finances pour avoir d'argent. Puis j'ai dit, je pense que je vais aller là voir si je suis capable d'avoir un petit peu d'argent. Je vais là, puis le gars, il dit quoi? J'ai dit, ben ça fait, j'ai commencé à travailler, puis j'ai dit, j'ai besoin du linge, puis ça, puis... Il a dit, comment tu voudrais? J'ai dit, t'as bien 1200 piastres. J'ai dû aller, puis il téléphonait à quelqu'un, puis je savais pas, j'avais peur, puis je reçois, puis elle dit, il revient, puis il dit, ben 1200 piastres, ben on peut te donner 2500. Un vendredi après-midi, j'ai dit, non, c'est correct. Il dit, veux-tu avoir... veux-tu avoir cash? J'ai dit oui, un cash sera correct. Parce... Ça, là, là, j'ai parti de là avec tout cet argent-là. J'ai fait le tour de, du bloc pour pas qu'ils me voient aller à l'hôtel. Après ça, j'étais à l'hôtel, puis je pense la première fois, ça c'était vendredi, la prochaine fois que je me rappelle, c'était mercredi. Puis j'avais pas été travailler encore. Je sais pas quoi qui est arrivé. J'étais à la maison. Puis ma mère a dit, ben tu vas-tu téléphoner à l'ouvrage? J'ai dit, je vais téléphoner, j'ai dit, je vais être là demain matin. Puis un mois il a passé, puis j'ai eu un téléphone de la finance, de la compagnie de finance. Elle a dit, Yvon, es-tu là? J'ai dit, c'est moi. Elle a dit, t'as manqué ton premier paiement. J'ai dit, quel paiement? Je savais même pas que j'avais emprunté de l'argent. Ça, j'étais là, puis là, ben ils m'ont donné mon argent, puis je veux dire, j'ai commencé à payer, puis après ça, c'était partie de ma vie. Je payais de un pour payer l'autre, puis tout est arrivé comme ça, puis là, ma santé, j'ai blâmé le monde qui me donnait de la bière, puis le fort, que c'était du méchant stock qu'il m'a donné. Parce que j'avais toujours avec du trouble avec mon ventre. So, là, une de mes voyages à prison, je filais pas bien un matin, puis il y avait un gars, là, c'est lui qui était le surnom de la ville. C'est toutes les villes, ils en ont un. Mais moi, il y en avait un déjà. J'ai demandé, j'ai dit, comment ça, tu files pas? Il a dit, le matin, là, il dit, bois pas une bière quand tu travailles. Bois une coupe de shot de fort. So, OK, so là, c'était mieux, parce que le matin, il prenait une shot. Des fois, ça restait pas, ça sortait. Après le troisième, là, c'était correct, là, je peux aller travailler. So, puis je travaillais, le reste pas loin de où je travaillais, il y avait un hôtel, so, on allait là pour dîner. Puis là, ma vie était comme ça, c'était un boire, puis toujours. Là, en 1968, j'ai eu un gros accident. J'étais pour un an, j'ai pas travaillé. Puis je travaillais pas dans ce temps-là. Puis j'étais voir le docteur, puis le docteur il a dit, tu peux commencer à travailler. Il dit, va à l'hôpital de Welland, il dit, je vais donner ton nom. So, je vois là le lendemain, puis j'arrive à la maison, puis un de mes amis sont là. Puis il a dit, veux-tu travailler? Je vais te ramasser demain matin. Vraiment, je voulais pas travailler parce que c'était pas dans ma vie. J'ai dit, on va essayer demain matin. So, là, j'étais célébré ce soir-là, j'étais à l'hôtel, je buvais du fort, la tequila, toute cette affaire. Après ça, on était une madame qui vendait de la bière après les hôtels lui fermaient. Puis on allait là, puis le lendemain matin, il me réveillait à 6 heures pour ma mère, puis ce monsieur-là, il me réveillait pour aller travailler. J'arrivais à l'ouvrage, puis le gars qui était là, c'est lui qui était... il gardait pire que moi. On était à l'hôtel à midi, on est resté là toute l'après-midi, on n'a pas revenu. So, j'ai travaillé là pour 35 ans, je m'ai retiré de là à 55. Ça fait 13 ans là que j'ai retiré. So, en 75, là, ma vie était pas mal maganée. Je travaillais encore, c'était pas bon. J'avais plusieurs femmes que j'ai pris en prison, ça marchait pas parce que chaque fois que je buvais, ça marchait pas. So, un soir, j'étais supposé travailler à minuit à 8. J'étais à l'hôtel puis l'après-midi, puis j'ai bu jusqu'à 1h30 du matin. Parce que j'étais à l'ouvrage. Mais le soir-là, lendemain, après ça, j'étais travaillé, puis ce soir-là, je voyais des bébites qui sortaient des murs, puis des serpents, puis toutes sortes d'affaires qui arrivaient. So, sa nuit-là, ça va, j'ai dit 3-4 mots. J'étais catholique, mais depuis que j'avais 14 ans, j'ai pas été à l'église ou rien. Mais j'ai dit une petite prière, je disais ça quand j'étais dans la prison, quand j'ai voyé ces bords-là, au-de-moi de ce trouble-là, puis je vais pas pouvoir encore, hein, mais ça n'a pas arrivé. Ben, oui, ce matin-là, j'ai fait sa petite prière-là, puis j'étais à la maison, j'étais prêt à dormir, j'avais mal au... Je renvoyais, j'avais mal au ventre, ça va là que quelqu'un m'avait... Puis il me tirait ça dans le ventre, puis le soir-là, j'ai parti de l'après-midi pour aller travailler pour midi, 11 heures le soir. Puis ce soir-là, j'ai vu toutes sortes d'affaires... Je filais pas bien le matin, je m'en allais à la maison, je marchais à la maison, puis un de mes amis que j'avais pas vu, ça fait bien 10 ans, il me ramassait, puis il dit, veux-tu savoir, aller pour un café? J'étais pour un café, puis on était à un meeting le matin. Puis à ce meeting-là, ça ma vie elle a changé. Là, je voyais un peu en avant. J'ai été à ce meeting-là, le lendemain, on commençait à aller à un meeting. J'ai été pour 40 jours de fil. Là, après 40 jours, j'ai dit, je pense que je vais aller, je vais arrêter, je vais faire ça tout seul. Ça marche pas tout seul. Dans ce temps que je faisais tout seul, en 77, je m'ai marié. J'ai acheté une maison, j'étais en Europe pour mes vacances de noces, puis je suis retourné à la maison. La première affaire qu'on a eue, c'était une lettre, la malle, puis j'étais plus capable de rouvrir parce que c'était une invitation pour aller des noces. J'ai dit, j'ai plus capable d'aller. On n'allait même pas au théâtre, parce qu'à théâtre, à Wallen, c'était au Seaway Mall, il y avait un hôtel, là. Puis le monde sortait de là, puis le monde chantait, puis j'avais peur d'y aller. On n'allait même pas au théâtre pour voir une vue le samedi soir ou rien. Ça, j'ai pas été à AA pour 5 ans. De 75 à 81. Mais à 81, quand on a sorti pendant le temps de Noël, puis... chaque année, on sortait, je prenais mon verre, puis je tournais de bord. Cette année-là, j'ai pas tourné de bord. Il a envoyé un beau petit verre de vin, bien fancy, là, puis j'ai pris ça, puis un autre verre. Après ça, quelque chose m'est arrivé, j'ai pensé, quoi que tu fais? J'arrive à la maison, ma femme a dit, a vu sur une de ses girlfriends à elle, puis ça a été cette soir aussi, c'est April, là, là-bas, là. Puis elle dit, son mari est dans AA. Le soir après, on était là. Ce vendredi-là, il est allé au fait à l'ouvrage. Il y avait un auto neuf. On a commencé à aller au meeting, puis meeting tous les soirs. Quand je travaillais 4 à minuit, on allait à... Quand minuit à 8, on allait à des états... on allait à toute place. Et là, lui, il appartenait à le groupe des Roses, qu'on va dire, là. Puis ça, on commençait à aller là. On était à 4-5 membres. Puis ils ont dit, on était là, t'as bien un mois, deux mois. J'étais pas mal dans brume, je savais pas trop. Puis ils ont dit, samedi prochain, on va avoir un meeting de business avant le meeting. J'ai dit, OK. So, va pas un business meeting sans savoir, parce que c'était pas, tu vas à la toilette, puis tu reviens, puis c'est toi qui es GSR ou t'as d'ouvrage à faire. Ça, c'était, on était avec 3 ou 4 dans le groupe, so. Anyways, j'ai fait ça, j'étais alternate GSR, puis après ça, GSR, ça prend 2-3 semaines, l'autre gars, il va plus, c'est toi, ça, so, tout y arrive comme ça, ça a bien été, là, j'ai resté dans le service pour plusieurs années, j'étais à DCM, puis j'ai rencontré gros du monde en AA, puis aujourd'hui, c'est ma vie. Depuis que j'ai retiré, ben avant même avec ça, comme là, j'ai retiré, j'ai fait 6 meetings par semaine de soir, puis ben 2-3 dans la journée. So, comme j'ai dit à ma femme aussi, dans l'IA, elle va célébrer dans le mois d'octobre 25 ans. Ben, notre famille aujourd'hui, comme la dernière convention à Texas était là, puis à Toronto, mais celle-là, il fallait qu'elle garde nos petits-enfants, so, elle était plus capable de venir, so, on a descendu avec trois messieurs, là, puis ça a bien été, ben, la grâce du bon Dieu, on va tout retourner back, toute la gang ici, puis au convention. Ben, j'aimerais ça remercier le comité de Atlanta ici, puis tout le monde qui est en charge, puis tout le monde ici le matin pour. Je sais que mon français c'est pas le meilleur, ben j'essaie, comme j'ai dit avant, quand on était jeune, si on ne parlait pas français, on avait une claque en arrière de la tête. Puis quand ma mère, quand elle était au un foyer, j'allais là pour la faire manger tous les midis depuis que j'ai retiré. Puis après ça, je m'assisais avec les autres, toute la gang de. Mais on va pas dire des vieilles femmes, mais c'était plus vieux que moi, hein, plus vieux que moi, anyway. So, il parlait tout bien de la boisson. Puis ma mère, elle disait, « Oh non, mon gars, il boit pas, lui, il voit. Hey. » So, moi, puis même quand je travaillais à l'hôpital, puis le monde, il rentrait, puis dans les urgences, là, puis il venait me chercher. Mon boss, il dit, « Serais-tu capable d'y aller parler? » Je dis, « Certain, si je me paye pour parler, je vais, à 3 heures, je m'en vais à la maison. So, » J'ai dit, « OK. » So, des fois, j'étais là à moquer d'une journée. On amenait du café, puis on parlait, puis, tu sais, il y en a qui sont encore sobres aujourd'hui. J'aime aider le monde qui rentre de nouveau, puis même les autres, parce que même si tu as 10 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, tu peux avoir du trouble pareil. On est tous humains, on a. Quelque chose peut arriver dans notre vie pour changer notre vie. Mais pour le comité encore, puis tout le monde ici, je vous souhaite une autre journée à être sobre. Puis merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup, Yvan. Donc, c'est ça, une autre journée à être sobre. Hein? C'est ça, dans le fond, le cadeau qu'on a aujourd'hui, de ne pas avoir soif, de pas boire, d'être tout ensemble à célébrer le 80e anniversaire de la Fondation d'Alcooliques Anonymes, de partager ensemble, de rencontrer des alcooliques en rétablissement de partout dans le monde. On l'a vu hier à la cérémonie des drapeaux, hein. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ah, qui est dans 160 ou 170 pays, je me souviens pas. Puis, avec 84 pays qui sont représentés ici, et puis on voyait les gens venant de toutes sortes d'endroits, avec des cultures différentes, des habillements différents, des langues différentes, puis on avait tous le même but, un seul but, hein, aider l'alcoolique qui souffre encore, et par la force des choses, s'aider soi-même. C'est ça le secret de AA, hein? Se dévouer auprès de l'autre, c'est ce qui fait que je me sens mieux une journée à la fois. Bon, c'est pas à moi de parler, je te remercie Yvon, mais je me permets comme animateur de... J'ai le micro, donc j'en profite. C'est maintenant Karine qui va venir nous entretenir.
Bonjour, je m'appelle Karine, je suis une alcoolique. Une alcoolique reconnaissante, remplie de gratitude d'avoir la chance d'être ici devant vous aujourd'hui au lieu d'être ici pieds sous terre. Une alcoolique qui vient de faire 18 heures de route pour se rendre ici, qui a passé par Akron, qui a eu la chance de visiter la maison du Dr. Bob. C'est comme un pèlerinage. C'est exactement la même chose. Je suis pleine d'émotions. Je suis une grosse boule d'énervement. Je suis super excitée. Mais c'est tout positif. C'est tout merveilleux ce que je vis. Puis ça, je le dois. Voilà. Bon, j'en perds mon français. Je le dois à Alcoolique Anonyme. Si j'avais pas les 12 étapes dans ma vie, si j'avais pas ce beau mouvement-là, je serais pas ici aujourd'hui. Wow! Quand on dit une nouvelle liberté, moi, cette nouvelle liberté-là, j'y ai goûté il y a 20 ans. Puis je l'ai rejetée du revers de la main, 6 mois plus tard. Mais la graine a été semée. J'ai eu droit à ce cadeau-là. Puis moi, je me plais à dire que c'est par la grâce de mon père que je suis arrivée au mouvement il y a 20 ans. C'est par la grâce de mon père que j'ai connu Alcoolique Anonyme. Puis c'est par ma tête de cochon que je suis partie. Parce que trop d'orgueil, parce que trop d'ego, parce que trop rempli de moi-même. Parce qu'adolescente, parce que se faire dire à 16 ans que « Assieds-toi, écoute, puis excusez-moi mon langage, mais ferme ta gueule. » Ça rentre mal à 16 ans, un petit peu. Excusez. Eh, mon Dieu. Une chance que je ne suis pas en train de faire un mix, parce que ça se ferait tout seul. Je suis revenue à en 98, par la grâce de la drogue. Je fais partie de cette génération-là. Je dis par la grâce de la drogue parce que je refusais encore à ce moment-là de m'identifier comme une alcoolique. Je refusais encore à ce moment-là de voir que mon problème premier, ma substance de préférence, était l'alcool. Je voyais ça encore comme je fais partie, c'est ma vie de jeunesse. Je voyais ça comme ça encore, en 98. J'ai quand même fait un bout. J'ai fait un an et demi. Un an et demi à faire exactement le contraire de ce que je devais faire. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Je suis retournée. Oh, excusez. Ah, comme ça, est-ce que c'est mieux? OK, désolée, c'est la nervosité. OK. Puis s'entendre, c'est comme... C'est pas trop trippant, mettons, hein? Donc, c'est ça. Je suis revenue en 98. J'ai fait exactement tout le contraire de ce qui est suggéré dans le mouvement des alcooliques anonymes. Je me suis pas pris de moraine, j'ai pas pris de groupe d'attache. J'ai fait du meeting de chaise, assis en arrière. Je me suis pété les bretelles à présider des meetings, à me vanter la gueule. Garde, viens à ce meeting-là, à soir, c'est moi qui anime, tu vas voir, le partage va être hot. Non, garde. Exactement tout le contraire de ce que tu dois faire dans Alcoolique Anonyme. Aucune humilité, imbu de moi-même, rempli de moi-même. Ben, ça a donné ce que ça a donné. En 2000, j'ai rechuté. Et ça m'a coûté 14 ans de ma vie. Ça m'a coûté, en fait, 13 ans de ma vie. 13 ans où ce que j'ai descendu juste plus bas. J'avais écouté dans un partage, mon Dieu, une chance que je me tiens. J'avais écouté dans un partage, puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai, pareil, c'est ça le principe de la rechute. Hein. C'est comme mettre un véhicule à 200 000 km dans le garage, quand tu le ressors, il est à 200 000 km encore. Il va juste s'additionner le kilométrage. Rechute, même principe. Tu repars à même place, tu descends plus bas. Tu fais rien que plus t'emprisonner. C'est rien que ça que tu fais. Tu vas juste plus loin en enfer. Tu souffres à la hauteur de ton ego. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai souffert. Dans ces 13 ans-là, par exemple, je dois dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu, j'ai eu deux belles filles en santé. Deux belles filles qui, grâce à A, malgré le fait que j'étais dans mon actif, j'ai pas bu durant mes grossesses. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. J'avais pas eu cette graine-là de semer dans ma tête, dans mon cœur. Peut-être que mes filles seraient pas comme ça. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'ils sont en santé. Ils pètent le feu, même des fois un petit peu trop. Mais ça, c'est des enfants, hein? Puis c'est bien correct. Ils m'apprennent tellement. Ils m'apprennent tellement. Ces deux petites pinottes-là, c'est incroyable. Fait qu'en 2013, ben, j'étais écœurée. J'avais le goût de partir. J'avais le goût de mettre fin à mes jours. Puis c'est rendu au point où ce que même mes enfants ne me retenaient même plus. Même mes filles, c'était pas assez. Fait qu'au lieu de faire ça, je suis revenue à AA. Moi, j'ai connu AA dans la ville de Québec. Je suis revenue à AA en 2013 dans la ville de Gatineau. Merci, mon Dieu. Ça a été moins rough sur l'orgueil. Ça a été beaucoup moins difficile parce que je connaissais pas personne. Parce que c'est pas évident de revenir à AA quand tu connais du monde. Surtout personne égocentrique comme moi, là, puis fière, puis orgueilleuse. Là. Merci, mon Dieu. J'ai été accueillie. Accueillie à bras ouverts. D'amour inconditionnel. Merci. J'avais besoin de ça. Et j'ai encore besoin de cet amour inconditionnel-là. Parce que oui, depuis 2013, j'ai appris à m'aimer. Mais maudit que j'aime ça me faire aimer encore. C'est correct. C'est bien correct. J'ai été accueillie et entourée. J'ai eu la chance de rencontrer une personne merveilleuse qui m'a assis à côté d'elle le premier meeting que j'ai fait à Gatineau. Elle m'a encadrée. Elle m'a parlé. Elle m'a accueillie. Merci. J'ai fait exactement le contraire de ce que j'avais déjà fait. J'ai fait ce que vous m'avez suggéré. Vous m'avez suggéré de me prendre une marraine, je me suis pris une marraine. Puis la première marraine que j'ai eue, ben c'est cette madame-là. C'est cette madame-là qui m'a accueillie le 3 octobre 2013. C'est cette femme-là qui m'a guidée pour les premiers mois, et ce, de façon inconditionnelle. Quand je lui ai demandé d'être ma marraine, c'était la deuxième fois que je la voyais. Puis, je me suis dit, elle, ce qu'elle a dans ses yeux, moi, je le veux, ça. Puis, elle m'a aidée à cheminer jusqu'à temps, puis d'elle-même, elle me l'a dit, jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un, puis que j'apprenne à connaître quelqu'un d'autre qui va m'aider encore à cheminer. Puis, cette personne-là, aujourd'hui, elle est dans la salle. Ma deuxième marraine, ma marraine, est ici aujourd'hui. Merci, mon Dieu. J'ai fait le merveilleux voyage avec elle en voiture. Que d'échanges. Chose que j'aurais jamais, jamais vécue avant. Ce sera pas long. Wow. Je suis encore pleine d'émotions. C'est comme une chance que c'est solide, cette affaire-là, parce que je pense que ça irait le camp en bourse. Wow. Alcoolique anonyme, moi, je dois tout. Tu sais, vous m'avez dit, prends-toi une marraine, j'ai pris ma marraine. Vous m'avez dit, prends-toi un groupe d'attache, je me suis pris un groupe d'attache. Aujourd'hui, je m'implique pour les bonnes raisons. Je m'implique pour mon rétablissement à moi. Pas pour le rétablissement de Joe Blow, le mien. Il y a rien de plus beau que de faire l'accueil puis de faire le café dans une salle. Il y a rien de plus beau. Peu importe le poste que tu vas occuper dans Alcoolique Anonyme, l'accueil et le café, c'est le plus important. C'est la raison pour laquelle la salle est ouverte. C'est la raison qui m'a sauvé la vie parce que cette journée-là, le 3 octobre, il y avait quelqu'un dans la salle qui a fait le café puis qui m'a accueilli. Merci, mon Dieu. Aujourd'hui, je regarde avant, puis je me dis, j'étais dans une prison, hein, c'était incroyable. Puis aujourd'hui, ce que je vis, c'est de la liberté. Je suis capable de m'accepter, je suis capable de m'aimer. Je suis qui je suis, et je me sens libre de l'être, et je me sens libre de vivre. Avant, je vivais pour les autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Aujourd'hui, avec le temps, et ça s'améliore à tous les jours, je m'aime de plus en plus, je m'accepte de plus en plus et je me laisse vivre de plus en plus. Ça n'avait pas été d'Alcoolique Anonyme, je ne serais pas là à vous dire ces paroles-là. T'sais. Aujourd'hui, je remercie ma puissance supérieure. Merci. Puis je vous remercie d'être là, puis je vais garder ça bien simple parce que là, je sens que Karine va reprendre le show, puis c'est pas trop sain, ça. Je vous remercie d'être là. Puis je remercie particulièrement Richard, je sais qu'il n'est pas ici, mais c'est bien correct, d'avoir pensé à moi pour que je puisse vous partager ça puis vous donner le message. C'est le plus beau cadeau. C'est ma première convention. C'est assez intense de vivre une première convention et en plus de partager, d'avoir l'honneur et la chance de partager. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre silence. Je vous adore. Merci.
Merci, Karine. Écoutez, il nous reste quand même beaucoup de temps. Moi, ce que j'aimerais faire, il y aura tantôt période de commentaires et de questions. Mais avant, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui aurait 20 minutes. Parce que ici, c'est Canada-États-Unis, vous savez. Puis Richard, dont on parle, qui a invité les gens à venir partager ici aujourd'hui, ben, il vit au Canada. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui parlez français, qui ne vivez pas au Canada. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, moi j'aimerais ça entendre quelqu'un de l'extérieur du Canada qui aimerait venir nous entretenir sur ce qu'est pour lui le thème d'aujourd'hui, une liberté nouvelle. Donc, vous monsieur, oui?
Benoît.
Donc, il y a 20 minutes, 5 minutes avant, je vous mettrai un petit papier ici. C'est bon?
C'est bon. Alors, moi, je n'ai pas de bouteille d'eau. Bon, ça ne tient pas. C'est pas grave. Alors, on m'excuse.
Ouais, merci.
M'excuserai si je suis un peu tremblant, parce que j'ai saisi la balle au bond de notre ami, de Jean-François, pour m'exprimer auprès de vous. Alors, je m'appelle Benoît, je suis alcoolique, reconnaissant, j'ai pas bu aujourd'hui d'alcool. Plus, comme ça, plus fort, c'est bien?
Plus loin,
d'accord. C'est vrai que j'avais envie que une voix française soit entendue parmi cette assemblée où... Où on entend beaucoup de cette langue canadienne et de cet accent canadien qu'on adore, mais qui nous rappelle le 17e ou le 18e siècle, breton ou vendéen. Mais bon, on a un peu évolué, donc c'est aussi bien que vous nous entendiez directement. Alors, moi j'ai beaucoup de temps, 20 minutes, c'est extraordinaire pour donner un témoignage. Moi je suis né dans une famille... catholique, bourgeoise, mais pas trop, avec des gens... ma mère était très fantasque, Mon père avait 20 ans de plus que ma mère. C'était un homme très profond, très, très, j'allais dire très croyant, c'est-à-dire plein d'humilité et de doute, en vérité aussi. Et j'étais le quatrième de 9. À ce titre, j'étais le plus petit des grands et le plus grand des petits. Et je crois que j'ai toujours souffert de cette position parce que, comme j'étais le plus petit des grands, j'allais pas au cinéma voir Yvan Noé. Quand Yvan Noé est sorti, on me disait, non, tu restes à la maison, c'est pas pour toi, tu vas garder les petits. Et puis, comme plus grand des petits, j'avais aussi d'autres corvées. Mais ça avait aussi des avantages, c'est que j'étais un enfant timide, sans doute nerveux, et les 9 enfants avaient un sobriquet. Moi, on m'appelait Puce, parce que j'étais sans doute fragile, alors c'était pas un sobriquet qui donnait beaucoup d'énergie pour entrer dans la vie. Très rapidement, j'ai compris que pour vaincre ma timidité, il me fallait quelque chose, et je me souviens que à plusieurs reprises, à l'occasion de communion, de fêtes familiales, j'ai découvert à 12-13 ans, très, très jeune, que en vidant des verres de coupe de champagne, j'avais une certaine forme d'ivresse, c'est que le souvenir que j'en ai, c'est qu'un jour j'ai fait rire une de mes sœurs aînées. Alors c'était vraiment le paradis, j'avais compris que par ce biais-là, j'avais sans doute une possibilité de me dépasser moi-même. Trop près, je vais essayer de reculer. C'est mieux comme ça? Donc, les choses ont passé, je suis allé au collège, etc. Et puis, vers 16-17 ans, c'était le moment où il s'agissait de séduire des filles, les faire rire, et moi j'étais incapable de ça. Et j'ai trouvé dans le vin, il y avait toujours du vin à la maison, hein, on est en France, le petit coup de pouce qui me permettait dans les soirées, alors le soir c'était pas du vin, c'était à ce moment-là devenu du whisky, en influence américaine aidant, dans les années 50-60, et donc dans les soirées très rapidement j'ai trouvé la force et l'énergie, me semblait-il, de séduire les filles en buvant de l'alcool. Malheureusement très très rapidement cette facilité a été gâchée parce que, en fait, je me suis aperçu, je pense pas que je m'en rendais compte, que c'est pas tellement la capacité de séduire que j'allais chercher, donc surmonter ma timidité, mais je crois que j'allais chercher l'ivresse. Et je me suis rendu compte par la suite que, en vérité, j'avais jamais aimé l'alcool, mais que j'avais adoré, en fait, aller chercher cette ivresse avec, malheureusement, toutes les difficultés que ça portait, la gueule de bois, la tête en compteur à gaz, comme on dit à Paris, des tas de désagréments qui faisaient que c'était pas du tout agréable, mais pour autant je continuais tous les jours. Je crois que j'ai cherché à arrêter de boire aussi souvent que j'ai cherché à arrêter de boire, pardon, aussi souvent que j'ai levé un verre, moins une fois jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que très vite j'ai compris que l'alcool était incompatible avec moi parce que j'avais besoin de cette ivresse, mais je continuais. Alors les choses, je passerai très rapidement là-dessus. J'ai réussi, je ne sais trop comment, à faire d'assez bonnes études, ce qui a été utile pour moi par la suite. J'ai pu me marier et je voudrais ici, elle n'est pas là, elle est restée à la maison, remercier ma femme Florence. Qui restait avec moi pendant ces périodes. On a été mariés pendant je me suis marié en 68 et je me suis arrêté de boire en 79. Donc elle a supporté pendant 10 ans, sans être à l'annon. Elle a pas accroché à cette chose-là. Mon alcoolisme pratiquant. On a eu 3 enfants pendant ce temps-là et elle a vécu tout ça. Alors, d'une certaine façon, elle devait y trouver son compte, hein, parce qu'elle était la patronne. Et c'est sûr que lorsque je suis revenu à plus de responsabilité. Elle a, c'était difficile pour elle d'ailleurs de, d'accepter ce, ce rééquilibrage au sein de notre couple. Mais en tout cas, je suis infiniment reconnaissant de, d'être resté avec moi. Et nous sommes toujours mariés maintenant depuis, on s'est mariés en 68, alors faites le calcul. Je ne suis pas ici à l'instant même capable de faire le calcul de 45 ans, quelque chose comme ça. J'ai, ce que je voudrais dire en ce qui concerne le, la façon dont, dont je me suis arrêté, c'est que, en fait, très vite, l'alcool est devenu insupportable et ma femme m'a beaucoup poussé à boire moins, à m'arrêter. Alors j'ai essayé toutes les techniques, pas boire le matin, changer de jour, changer de boisson, enfin, tout ce qu'on peut lire dans, dans la littérature, je l'ai fait, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai été nommé professionnellement à Bordeaux, à l'époque on habitait autour de Paris, et là ça a été, j'ai entamé une psychothérapie. Cette psychothérapie, je la faisais avec quelqu'un qui finalement m'a amené à faire une psychanalyse. Ça a duré un ou deux ans. Et ce docteur-là, je l'aimais beaucoup, et il avait une balafre au visage. Je l'appelais face de rat. C'était ma façon amicale de le de lui donner un surnom. Et les choses sont empirées à tel point que la société dans laquelle je travaillais m'a muté sur, m'a fait revenir sur Paris, et ce docteur m'a envoyé à un autre docteur qui était lui tout à fait autre comme style d'homme. Le premier était tout maigre avec cette espèce de balafre, l'autre était tout gros, il avait un gros ventre, il était manifestement bien installé dans la vie, et je l'appelais Rami Lagrobis parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de lui donner un surnom. Alors c'est à ce moment-là que je me suis trouvé seul à Paris. J'habitais chez une cousine beaucoup plus âgée que moi dans le centre de Paris. Et là, j'ai vraiment connu le fond pendant 3 à 4 mois. J'étais bourré tous les soirs. J'ai oublié de dire que pour moi, la gueule de bois s'accompagnait d'un sentiment de honte profond. Hein, je rasais les murs. J'avais un dégoût de moi absolu. Je pense que c'était la chose là. Ce manque d'estime de moi, je pense, était la chose la plus dramatique de ce que je vivais, indépendamment de ce que je souffrais, bien sûr, et puis du sentiment quand même de souffrance que j'infligeais aux autres. Moi, j'ai jamais été ni fier ni heureux d'aucune de mes cuites, et comme je n'avais pas d'écmoïne tous les jours, ça vous dit dans quel état je pouvais me trouver sur le plan psychique. Et là, ce moment de grand désarroi, j'étais vraiment à la limite de tout perdre. Ma femme était sans doute en train de se poser la question de savoir si elle allait rester avec moi. À mon boulot, c'était pas mieux. Là, un soir, j'ai appelé, à 10h du soir, il n'y avait pas encore les systèmes de communication qu'il y a maintenant, j'ai appelé les alcooliques anonymes, et bien sûr, à 10h, 10h30 du soir, il n'y avait personne au bout du fil. J'ai dit, c'est tous des cons, c'est donc pas fait pour moi, et bien entendu, j'ai fait tous les bars du boulevard Saint-Germain, et je suis rentré à 3/4 heures du matin, ivre mort, je m'étais fait piquer ma montre, enfin, c'était catastrophique. Pas une montre, hein, un briquet en or que m'avait offert ma mère. Vraiment, ça fait partie des petites vétilles de l'alcool. Et puis, progressivement, j'ai été ouvert à l'idée que quelque chose pouvait m'arriver de meilleur. Et ça, je voudrais le dire parce que ça me paraît très important. Moi, je suis, mon abstinence, elle est le résultat d'une chaîne de gens qui n'ont pas désespéré de moi. Il y a eu ma femme, j'en ai parlé, un parent à moi, alcoolique anonyme, est resté pendant plusieurs semaines au téléphone avec moi. Je lui disais, je prends mon whisky pour être sûr de ne pas me faire piéger, et il restait au téléphone pour entendre mes sornades, alors que moi je continuais, j'essayais de l'écouter. Et puis un jour, il m'a convaincu d'aller en réunion. À l'époque, j'habitais Versailles, à côté de Paris. Et j'avais tellement peur d'être reconnu dans une réunion à Versailles, il y a quand même pas mal d'habitants à Versailles, il n'y a aucune chance d'être reconnu, que je suis allé à une réunion à Paris, près de l'hôtel de ville à Paris, pour ceux qui connaissent. Et là, j'ai tout de suite compris que j'avais frappé à la bonne porte, que tout de suite j'ai compris que les gens qui m'accueillaient parlaient de quelque chose qui me concernait. Je me suis immédiatement identifié à ces gens-là. D'abord, ils n'avaient pas l'air trop clodo. Moi, j'avais un peu peur de ça. J'avais pas envie de me retrouver parmi les gens de boisson que j'avais pu côtoyer. J'ai trouvé des gens qui étaient pas tous abstinents, mais tous, la majorité quand même était abstinents. Tous étaient en recherche. Alors je vous passe les histoires amusantes qu'on a pu avoir dans ce groupe de la rue des Archives à Paris. Ça remonte quand même à 1979 aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est le processus psychique qui s'est passé chez moi. Je voyais toujours à ce moment-là mon psychanalyste Ramin Agrobis. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, t'as l'ESA d'un côté et t'as la psychanalyse de l'autre. Et moi, mon choix, c'était de me dire, j'ai eu le sentiment pour moi que ces deux démarches étaient incompatibles, que l'une allait empêcher l'autre de se développer. Et j'ai choisi de suivre la démarche des alcooliques anonymes. Et aujourd'hui, ce que je comprends pour moi, c'est que qu'est-ce que m'a apporté AA sur le plan psychique, hein, par rapport à ce que vous pouvez m'apporter toute démarche psychologique ou psychanalytique, c'est la dimension surnaturelle. Hein, c'est cette force qui m'a permis de m'en sortir. Et pour moi, la dimension surnaturelle, c'est évidemment la puissance supérieure, comme chacun la conçoit, mais c'est aussi cette force d'amour, cette union, cette unité qu'il y a entre nous, ce silence que vous avez à l'instant en m'écoutant et que je retrouve à chaque fois que je vais dans une réunion. Il y a cette force, cette présence. Je compare souvent ça à l'idée de présence réelle. Pour ceux qui sont chrétiens, ou en tout cas catholiques, il y a l'idée de présence réelle. Alors, je ne vous demande pas de le croire, mais cette idée de présence réelle, je la ressens à chaque fois que je vais à une réunion. Voilà, j'ai reçu énormément. J'ai peut-être pas rendu suffisamment. J'entendais parler de parrains, de marraines. Moi, j'ai pris au départ une marraine qui m'a beaucoup apporté, mais je pense que j'aurais aussi pu prendre un parrain. Et 15 ans ou 20 ans plus tard, enfin, j'ai pris un parrain. Et j'ai compris que j'avais besoin d'un homme comme parrain. Et que même si cette femme qui est toujours, d'une certaine façon, ma marraine, m'a beaucoup apporté, elle ne m'a pas apporté ce que l'homme qui est devenu mon parrain et qui est mort depuis quelques mois, et donc je vous confie sa mémoire, m'a apporté. Je ne pouvais pas avoir la même relation avec une femme que celle que je pouvais avoir avec un homme, et j'avais besoin de confier à cet homme des choses que je ne pouvais pas confier à une femme, même dans une dimension de parrainage. Ça, c'est mon expérience. Je demande à personne de se croire tenu par cette expérience-là. Que vous dire d'autre? J'ai entendu nos deux amis, nos trois amis témoigner. Je voudrais d'abord les remercier. Merci, mon Dieu, comme tu l'as dit. Oui, merci, mon Dieu. Je le dis aujourd'hui sans contrainte. Alors, Dieu tel que je le conçois. Je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. Je vous le signalerai lorsqu'il sortira. Mais non pas pour faire de l'argent, parce que j'ai décidé de ne pas avoir de droit d'auteur là-dessus, 5 minutes. Voilà, j'essaie d'écrire un petit peu, parce que je suis assez fasciné par l'universalité du message des alcooliques anonymes sur le plan spirituel. Et la problématique des religions, quand on voit ce qui se passe dans le monde, la façon dont tellement de gens vivent mal, comprennent mal le message d'amour que toutes les religions, d'une certaine façon, portent. Voilà, j'essaie d'apporter ma petite touche à cet édifice-là. C'est vraiment une très très grande joie de pouvoir vivre au quotidien cette expérience-là. Bon, j'ai maintenant quand même pas mal de 24 heures derrière moi. Et tous les jours, je découvre des fragilités supplémentaires. Et au lieu de m'en lamenter et de faire du pauvre de moi, je me dis, il y a encore du boulot à faire, donc c'est très bien. Je vais pas me tourner les pouces et je vais donc pas avoir à m'ennuyer dans ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés à surmonter le mal que j'ai fait à ma femme, à mes enfants, qui s'en sortent bien. Mais avec de sacrés paquets quand même, hein. Il a fallu qu'ils surmontent. Moi, j'étais un père absent, hein, sans doute largement auprès de mes trois enfants. Bon, il faut accepter ça. Et puis, une chose que par exemple j'ai découverte, c'est que il n'y avait pas d'âge pour être un père. j'étais un père absent. Eh bien, aujourd'hui, je transpose et je suis un père auprès de chacun de mes trois enfants, mais je leur apporte ce dont ils ont besoin à ce qui concerne leur père aujourd'hui. Voilà, j'essaie de faire ça un peu dans tous les domaines de ma vie. Il y avait un thème, on a hésité avec mon ami, sur l'honnêteté, et je pense que c'est là, c'est central dans la démarche d'inventaire, dans la démarche de la quatrième, la cinquième, etc., tradition, étape, c'est dimension d'honnêteté dans tous les domaines de ma vie. Je peux pas être honnête pour des histoires d'alcool, simplement, il faut progressivement ça occupe l'ensemble des domaines de ma vie. Moi, je peux pas être un être double. J'ai été longtemps un être à double personnalité quand j'étais dans l'alcool. Et là, le programme m'amène à rechercher autant que faire se peut, sans vouloir être un saint, l'unité de ma personne, l'unité de mon esprit, de mon âme, appelons-la comme on voudra. Voilà, ben c'est assez formidable de pouvoir partager ça avec vous. Honnêtement, j'en avais le désir. Je regrettais que, bon, les circonstances n'aient pas permis que l'un d'entre nous soit appelé à le faire. Donc, je te remercie Jean-François. Et puis, je vous remercie tous de m'avoir écouté, d'être ici. Je suis très heureux d'être à cette convention. Merci beaucoup.
Je vais t'asseoir ici.
Merci beaucoup, Benoît. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai entendu ton désir, puisque je l'ai proposé. Puis ça m'a fait bien plaisir de... Ben, c'est ça, d'entendre, en fait, un autre membre d'Alcoolique Anonyme. En fait, on vit tous la même chose, hein? On arrive à un bas-fond. On boit de l'alcool pour une raison X, qui fait qu'on se sent bien la première fois qu'on en prend. Et puis, éventuellement, ça devient un calvaire, qui est ce qu'on appelle notre bas-fond. Et puis là, ben, on a trois choix, en fait, quatre. Prison, folie, mort ou alcoolique anonyme, qui est une façon. C'est certain qu'il y a d'autres gens, puis c'est écrit dans notre gros livre, qu'il y a d'autres façons d'arrêter de boire. Mais celle-ci fonctionne, et puis voilà, c'est celle que nous partageons. Il nous reste une vingtaine de minutes avant que la réunion se termine. Donc, non, mais là, on va passer à des questions, en fait. Vous avez des questions par rapport au sujet, ou même ceux qui ont levé la main, qui semblaient avoir le désir de venir parler, ben vous pouvez nous partager en une minute ou deux. Voilà. Oui, allez-y. Non, mais de votre place. Oui, de votre place. Ben, où venez? Ben, venez donc au micro, une, deux minutes. Venez.
Bonjour.
Salut. La bouteille. Le mouchoir. Je m'appelle Denis, je suis alcoolique.
Bonjour Denis.
J'ai posé le verre le 21 mai 1990. Le témoignage de Karine m'a réconforté dans mon choix d'être ici aujourd'hui. 25 ans d'abstinence et j'ai fait mon malin comme Karine l'a dit. Dans beaucoup de choses, j'ai toujours été un meneur et j'ai oublié de m'occuper de moi. Les témoignages des amis que j'ai entendus depuis que je suis ici m'ont fait pleurer chaque fois. Hier, pendant le défilé des drapeaux, j'ai pleuré depuis le drapeau belge jusqu'à la fin. Parce que ça représentait des drapeaux d'amour à travers le monde. Des milliers d'alcooliques comme moi qui sont entrés dans un local foutu sans savoir que c'était une maladie, sans savoir qu'on pouvait s'en sortir et avoir une façon de retrouver sa dignité d'être humain. Moi, c'est ça que j'avais besoin. Et quand l'occasion s'est présentée de venir à cette convention, je me foutais pas mal d'aller aux États-Unis. J'ai jamais mis les pieds sur ce territoire. Je voulais mettre de l'ordre dans mon cœur. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce que dans les groupes que je fréquente, je n'arrivais pas à faire ce travail-là sur moi-même. Je n'ai plus de travail. Je suis sur l'invalidité et j'ai réussi à réunir la somme qu'il fallait pour traverser l'océan pour venir ici. Dans la littérature, il est marqué que la gratitude est une émotion, mais que si nous n'avons pas de la gratitude dans l'action, ça ne mène pas bien loin. Et j'avais besoin de trouver la force pour jeter les médicaments qui m'emmerdaient depuis des années. Et chez moi, je n'arrivais pas à le faire. Et ici, Dieu m'a donné la force de le faire au travers le témoignage d'un ami. C'est incroyable, Alcoolique Anonyme. Il n'y a pas que le problème d'alcool. Il y a la possibilité de mettre de l'ordre dans tous les domaines de notre vie. Mon épouse est alcoolique anonyme aussi. On s'est rencontrés chez AA. Il y avait un an que j'étais chez Alcoolique Anonyme. Mon premier ménage, c'était un fracas invraisemblable. On a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Elle s'appelle Dominique. Et on s'est mariés en 94. J'avais pas d'enfant, elle a deux filles. Et j'ai pu enfin avoir un rôle de père grâce à Alcoolique Anonyme. Et d'avoir des petits-enfants. Et de leur rendre ce que j'ai reçu ici. L'amour que je n'ai pas eu de ma mère alcoolique, de mon père alcoolique, l'amour maternel, l'amour paternel, je ne sais pas ce que c'est, mais vous, vous m'avez donné tellement d'amour que ça, je peux leur rendre. Je peux les aimer comme moi, je n'ai pas été aimé. Je sais ce que c'est que de ne pas être aimé. Et la première fois que j'ai ressenti de l'amour, c'est dans un local AA. C'est incroyable. C'est des alcooliques qui m'ont donné de l'amour. Voilà ce que je suis venu chercher ici, retrouver une liberté. Parce que je me sentais malhonnête par rapport à mes frères et sœurs alcooliques chez moi, par rapport à mon épouse. Je refonctionnais comme avec l'alcool, je cachais, je prenais mes cachetons en cachette. Et quand un ami entre dans un local et qui vient dire « j'ai rechuté dans l'alcool », je lui dis « tu sais, moi j'ai fait des dizaines de rechutes émotionnelles depuis que je suis chez AA, j'ai jamais repris de l'alcool ». Mais jamais je n'ai osé dire que j'avais un autre problème, une autre addiction. J'ai été malhonnête. Comme tu l'as dit. Ça m'a bouffé des années de ma vie, des années d'être heureux que j'ai mises de côté, que j'ai gâché, parce que je n'osais pas le dire, parce que je ne trouvais pas la force de le dire. Je sais que Dieu a pris soin de moi pendant des années, que c'est lui qui m'a conduit chez AA. Et je n'arrivais pas à arrêter avec Alcoolique Anonyme, il y a 27 ans en arrière. Et j'ai fait une cure de désintoxication. Et quand je suis entré dans le hall d'entrée, j'ai posé mes valises dans ce foutu hall, parce que je faisais du délirium depuis plus d'un an. Et j'ai sorti deux mains dans mon dos, qui m'arrachaient mon alcoolisme. C'est quelque chose d'incroyable, comme Bill a vécu son Magic Moment. Moi, c'était le mien ce jour-là. Débarrassé, je me suis senti débarrassé de mon alcoolisme ce jour-là. Et un jour à la fois, je suis resté abstinent d'alcool. Et aujourd'hui, je veux vivre un jour à la fois abstinent de médicaments. Parce que vous allez m'en donner la force. Parce que je veux retrouver une vie d'un homme honnête. Et je ne veux pas me retrouver face à mes amis et leur dire que je suis honnête alors que je ne le suis pas. Et je remercie ceux qui m'entourent de ne pas m'avoir jugé, parce qu'ils savaient. Ils savaient que je consommais autre chose. Ils savaient que j'y arriverais. Parce qu'ils m'ont aimé par-dessus cette folie. Je veux retourner chez moi avec un cœur propre, avec une âme nettoyée. Parce que c'est ça que je suis venu chercher ici. Et si quelqu'un ici a écouté l'ami hier soir, la première intervenante hier soir qui a dit Attends encore 5 minutes. Le miracle viendra. Combien de fois est-ce que je savais que j'étais dans ces 5 minutes-là? Je l'ai vécu au moins 10 fois. Et je n'ai pas eu le courage de demander à un ami ou à une amie, prends mes médocs. Le sachet était prêt. Prends-les, jette-les pour moi. Je n'avais jamais trouvé le courage de le faire. Et aujourd'hui, c'est fait grâce à vous. Je vous aime parce que vous êtes alcoolique. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.